Voilà.
Voilà. Voilà comment, depuis la Terre, on voit les mouvements de Mars. Vous voyez, la Terre est en bleu, Mars est en rouge, et toutes les deux tournent autour du Soleil, avec évidemment une vitesse angulaire différente. Et donc, sur la droite, vous avez ce que vous voyez depuis la Terre, quand vous rapportez l'orbite de Mars sur le plan des étoiles fixes. Voyez? Bon, ça se répète, ça fait des courbes comme ça, mais qui ne se répercutent jamais. On peut accélérer un peu. Voilà. D'ailleurs, Platon, quand il avait posé la question à Eudoxe, de Cnide, là on prend une planète qui est à l'intérieur, donc on prendrait par exemple Vénus. Platon, quand il avait posé la question à Eudoxe de Cnide à propos du schéma qui rendrait compte des apparences, il avait aussi demandé, et puis tu vas me dire combien de temps il faut pour que tout retourne à sa place, c'est-à-dire pour que tous les astres se retrouvent exactement dans la même position. Et je crois que ça faisait 36 000 ans, quelque chose. L'année platonique, c'était un temps inimaginable. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, si vous attendez vraiment que le Soleil et toutes les planètes soient revenues dans une certaine configuration, il faut attendre un bon moment. Je pense que c'est à peu près tout là. Parce qu'après, on a les lois de Kepler, mais ça, on ne va pas les faire encore. Ah oui, voilà. Ça, c'est bien. Alors, ça, c'est le mouvement qui fait l'axe de rotation de la Terre dans le ciel. Voyez, imaginons, la Terre est une immense toupie qui tourne autour d'elle-même. Si vous prenez une toupie et vous la poussez un peu avec un doigt, elle commence immédiatement à faire comme ça. D'accord? C'est un mouvement qui s'appelle des précessions. Et la Terre fait ce mouvement parce qu'elle est soumise à l'attraction du Soleil. Mais si en plus on y ajoute l'attraction de la Lune, alors le mouvement de vent, on ne voit pas là. Ah, c'est dommage. Et on ne voit pas la courbe tracée par l'axe. Je suis désolé. Il faut venir voir ici. En éteignant. Alors, je vais éteindre, mais c'est pas sûr. Vous les voyez, moi je suis aveugle. Bon. Voilà. Alors il y a encore des petits joujoux comme ça pour voir qu'est-ce qui se passe dans le ciel. Je vais vous faire grâce des autres parce que c'est un peu. Voilà. Alors, rendez-vous l'année prochaine pour la suite. Donc, la suite, ce sera M. Kepler, qu'on a déjà à peine rencontré, mais qui a sa propre histoire. Et puis Galilée, qui est alors une mine d'anecdotes, et puis Newton. Voilà. Le papier que j'ai distribué, si vous voulez, comme d'habitude, c'est un sujet que je n'ai pas touché parce que il n'y avait pas le temps. Ça mentionne juste le fait que ces gens, c'est-à-dire Copernic, Galilée, Newton, etc., en cherchant bien dans les œuvres latine, si vous voulez, d'une certaine date, trouvait quand même des suggestions très utiles pour leur nouvelle théorie. Or, l'époque, la bonne époque, si vous voulez, ces œuvres, il faut les situer entre la fin de la science hellénistique, c'est-à-dire le premier siècle avant Jésus-Christ, et avant l'arrivée de Ptolémée, c'est-à-dire le premier siècle après Jésus-Christ. Donc il y a 200 ans à peine, où tous ceux qui écrivaient avaient connaissance des théories anciennes, mais ne connaissaient pas encore Ptolémée, ou Aristote, si vous voulez. Et la chance veut que c'est aussi l'âge d'or de la littérature latine. Donc, d'écrivains de cette époque, donc un siècle avant, un siècle après Jésus-Christ, il y en a toute une flopée. Et c'est des gens qui étaient très bavards. Donc, il y a par exemple, je ne sais pas moi, la Naturalis Historia de Pline, c'était 40 livres, vous voyez. Donc, on y trouve dedans tout ce qu'on... Si, mais, il faut savoir ce qu'on cherche. Si on sait ce qu'on cherche, on trouve. Voilà.
Des questions? Oh.
Est-ce qu'il y a des questions? Ne vous gênez pas, hein, moi je...
Est-ce que tous les arts se tournent dans le même sens?
Alors, le mouvement de précession de la Terre a une période de 26 000 ans. Elle a été découverte par Hipparque au deuxième siècle avant Jésus-Christ. Et même la période de 26 000 ans a été déterminée par lui. Parce que il avait remarqué qu'au bout de quelques années, l'axe terrestre... Vous savez, par exemple, dans quelques milliers d'années, le nord ne sera plus vers l'étoile polaire. Ça sera déplacé. Donc c'est un mouvement qui est très lent, mais qui est perceptible quand même. Et ça s'appelle la précession des équinoxes, parce qu'en réalité, l'année solaire, c'est-à-dire l'année dure moins de ce qu'on s'attendrait. Et c'est parce que le plan de la Terre, justement, par rapport au soleil, bouge comme ça. Autrement, l'année tropique, l'année solaire, en fait, devrait avoir la même durée que l'année sidérale, c'est-à-dire l'intervalle de temps pour avoir une étoile dans la même position. D'autres questions?
Alors, est-ce que cette différence entre la manière dont la Terre et le Soleil se voient ne peut pas expliquer l'évolution des climats?
Alors, vous me posez une question à laquelle... Je préfère ne pas répondre, parce que l'évolution du climat, c'est un des sujets qui se vendent très bien sous le temps. Mais en réalité, quand on regarde un peu, pas d'un point de vue non scientifique, si vous voulez, on sait qu'il y a eu des changements de climat énormes dans le passé. Et on n'y comprend rien. Alors ceux qui disent qu'on y comprend quelque chose aujourd'hui, bon, peut-être, mais j'aimerais bien qu'ils m'expliquent ce qui s'est passé. Il y a eu des périodes glaciales il y a deux siècles, vous voyez, sans aller trop loin. Il y a eu une sécheresse, toute la colonisation grecque. Donc quand les Grecs ont essaimé partout, c'est parce qu'il y a eu 40 ans de sécheresse en Grèce. Ils ne pouvaient plus manger, les pauvres. Ils sont partis partout. Donc il y a eu des phénomènes vraiment impressionnants et qu'on ne sait pas expliquer. Bien, je vous souhaite alors...
Tous les astres, ils tombent toujours dans le même sens.
Ah oui, tous les astres. Alors là, on en parlera l'année prochaine, parce que l'année prochaine, on commencera à parler du système solaire d'abord, et puis de l'espace, et vous verrez que ce ne sera pas trop triste. Par exemple, on prend un bateau de pêche, on va dans l'espace, on met un grand filet, vous voyez, et vous attrapez ce que vous attrapez. Vous attrapez surtout de l'hydrogène, un peu d'oxygène, etc. Mais à partir de là, on va voir qu'on fait un système solaire. On ne peut pas faire autre chose. Ça vient tout seul. Oui.
Est-ce que vous dire comment évoluer les autres astronomies dans le monde en parallèle, enfin, peut-être
non.
Ça fait notre conférence,
oui.
Par exemple les Chinois,
qui
ont vu avant nous.
Écoute, non, je ne peux pas te répondre vraiment. Les Chinois, ce que je peux dire, c'est que...
Ils ont vu la première nova.
Ce que je peux dire, il y a différents types d'astronomie. Il y a une astronomie d'observation. C'est ce qui faisait les Babyloniens, c'est ce qui faisait les Indiens, c'est ce qui faisait les Chinois. C'est-à-dire qu'ils observaient soigneusement le ciel, ils notaient tout. Enfin, toute la période du Moyen-Âge, toutes les novas, toutes les nouvelles étoiles et toutes les comètes qu'on n'a pas vues en Europe, elles sont notées soigneusement chez les Chinois. Donc, mais à part l'astronomie d'observation, après, il y a une astronomie d'interprétation. Et l'astronomie d'interprétation même, on peut la diviser en deux types. Par exemple, quand on prend Copernic, et même comment on le verra, Kepler, etc., il donnait des lois pour le mouvement des planètes, mais il ne disait pas pourquoi. Les lois de Kepler décrivaient parfaitement le mouvement des planètes, mais sans égard à la cause physique. Il faut arriver à Newton pour comprendre finalement les causes. Alors, les peuples qui ont beaucoup observé, comme les Babyloniens, comme les Chinois, les Indiens, ont beaucoup aidé l'astronomie, parce qu'un astronome a besoin d'au moins 200-300 ans de données derrière lui pour pouvoir faire quelque chose. Mais que je sache, ils n'ont jamais formulé une théorie cosmologique aboutie. Tu vois, ils n'ont jamais trouvé la loi de gravitation pour dire les choses brutalement. Donc, une chose, c'est de regarder. Et l'astronomie d'observation, d'ailleurs, était typique de peuples à pouvoir central. C'est-à-dire, où il y avait un empereur, comme en Chine ou comme en Babylone, ben il avait son petit groupe d'astronomes qui était là pour lui dire quand il y avait une éclipse, quand il y avait le bon moment pour faire la guerre, etc., etc. Alors que là, maintenant, quand on passera à Kepler, etc., ben, l'astronomie, en tout cas en Europe, elle est en marche, il n'y en a pas tous des gens qui s'intéressent à ça. C'était plus réservé. Bon, il y a l'imprimerie qui est venue aussi. C'était plus une cour impériale qui s'occupait de l'astronomie. Il y avait toutes les universités, etc. Alors, je vous souhaite bonne fête et je vous dis à l'année prochaine. La première conférence qui sera sur l'espace, elle est malheureusement le mardi après Pâques. Donc ceux qui seront en vacances là, n'y seront pas, mais sinon, notez.
Vous vous souvenez que vous nous aviez mis le passé et puis l'imprimerie qui annonçait un siècle.
Oui, oui.
Et bien maintenant, il y a un troisième truc.
L'Internet. Oui.
Est-ce que l'informatique,
c'est une
si
révolution.
On le met là, va être rouge ou dans le noir?
Je ne sais pas. Mais l'Internet est une révolution.
C'est ce que je pense.
C'est sûr. C'est une révolution.
Le support,
c'est une révolution comparable à l'imprimerie.
Support à l'imprimerie,
tout à fait. L'effet, j'en parlais l'autre jour avec mon ami écrivain. Quand je mets un chapitre de son livre sur Internet, et immédiatement en Alaska ou en Afrique, on peut le voir immédiatement, dans l'instant qui suit. Donc c'est
la durée de temps.
C'est vraiment une révolution.
Vous vous rendez compte, c'est deux génies, c'est encore.
C'est faramineux le boulot qu'il fait quand même.
Moi, ce qui m'émeut, c'est quand je pense au type qui calculait sans calculette, sans ordinateur, etc., sans logarithme même à l'époque.
Ah, c'était avant les logarithmes.
Ah, ouais, ouais.
Les logarithmes, c'est donc 14.
Donc,
c'est après Copernic.
Les gens,
il y avait le temps.
Les gens, ils y passaient 40, 50 ans.
Ils y passaient.
Et alors, j'aimerais savoir, dis-moi, parce que quand ils faisaient ces calculs, il y en a une partie qui était en sexagésimale.
Ah,
est-ce
oui,
qu'il y en avait en décimale ou c'était tout en sexagésimale?
Ah non, il y avait certainement la décimale hein, quand tu dois faire.
Non,
c'est formidable dans ce que tu racontes, toute ton érudition, c'est qu'il y a à la fois la philosophie, la science, bien sûr.
Mais moi, je m'amuse comme il faut, parce que quand je suis parti pour cette conférence, je ne savais rien. Et c'est après que je me suis aperçu, par exemple, que les trois types, je n'aurais jamais pu les expliquer sans expliquer tout le... Je ne comprenais pas pourquoi l'Église se fâchait tellement si on disait, par exemple, que la Terre tourne.
Ah, parce qu'on est en question de valeur. Bien sûr. Il y a un nombre de types qui sont morts ou qui ont été parce qu'ils ont dit la vérité.
Je l'ai. J'ai toute la liste et je la montrerai la prochaine fois. le nombre de morts par pape.
Ah oui, c'est là.
Ah oui.
C'est incroyable. Alors, ce qu'il y a bien, c'est qu'il y a l'histoire avec un grand H, et puis il y a la petite histoire de l'histoire.
Ouais.
Alors, j'ai complètement oublié pourquoi un caillou tombe par terre.
Ah oui, mais je ne l'ai pas dit.
C'est que j'ai d'attendre que tu parles de Newton.
Non. Je devais en parler à propos d'Aristote, et je l'ai oublié. Tu aurais dû me demander, parce que c'est... Non. Alors, un caillou tombe par terre, parce que, voilà, je te l'explique.
L'histoire de la force...
Non. Ah, je te parle d'Aristote, moi, c'est ce que croyaient les gens jusque-là. Aristote, il a dit, il y a un centre, l'univers a un centre.
Oui.
Première proposition. Alors qu'après, les gens disaient, non, il n'y a pas de centre. L'univers a un centre, et donc, tout ce qui est lourd
va vers le centre.
De toute évidence, la Terre ne bouge pas, donc la Terre est déjà au centre.
Mm-hmm.
Et donc, quand un caillou tombe, c'est parce qu'il va vers le centre de l'univers. Point de ligne.
C'est aussi simple que ça.
C'est dommage, j'ai vraiment oublié de le dire. Ça fait partie du raisonnement.
Alors, il y a un truc qui m'a soufflé dans ta technique, c'est que quand tu montres une diapositive avec dedans un truc qui tourne. Alors, ça,
ah oui, ça c'est des petites...
Je ne sais pas comment on fait ça.
Ça c'est des coups de chance, c'est-à-dire il y a des petites figures en GIF, donc c'est un format de... Qui...
À bientôt, à l'année prochaine.
Tu te ne vai?
Ho capito quasi tutto.
Vai. e che e lui, mi fa, lui adesso mi ha fatto una domanda da cui mi sono accorto che mi sono dimenticato, perché è tutta una concatenazione logica, mi sono dimenticato un passo anche abbastanza importante.
Lui se ne è reso conto.
Sì.
Fabio, je viens de faire la Bible, parce que demain.
Oui.
Alors, bonne fête. Hein?
Merci.
Et au mois de janvier?
Oui.
Vous revenez quand?
C'est plutôt possible.
Début janvier?
Oui, oui. Non,
mais téléphone, hein?
Mm-hmm.
Bon. Dire que tu es là.
Mm-hmm.
Allez, merci.
Merci. Ciao. Bonne vacances.
Hein, et la meilleure chose.
Alors, pour vous, hein?
Mais salut Marie-France.
Si, bonne fête. Et bon anno.
Grazie.
Alors bon Bouddha.
Merci.
Et à l'année prochaine.
À l'année prochaine. Merci Hervé. Le microphone, bon, la batterie, je pense, s'est épuisée, mais juste à la fin, donc c'est impeccable. Non.
La batterie, je l'achète.
Ah, parce que c'est du. C'est des piles normales.
Ouais.
D'accord.
Ouais, parce que les autres piles, les autres piles,
puissent
être.
Ouais. Oui, le problème de rechargeable n'est pas encore une réussite. Ciao. Sì. Qui doit finir?
À quelle heure demain?
11h15, on arrive chez toi.
Parfait.
Donc on n'a pas de bagages, donc on a envie de faire démonter. Et je te remercie beaucoup.
Au revoir.
Et après,
on a les dossiers là, donc on va.
Comment tu fais pour en arrêter avec le.
Alors, moi j'ai pris le restaurant la Payotte parce qu'on peut y arriver par derrière, tu vois.
Ah, non, je vois pas du tout. Comme.
Oui, là où il y a la garderie d'enfants, là où il y a la sortie.
Demande-lui parce que je ne sais pas où c'est, moi. Qu'on l'amène le plus près possible, qu'il n'ait pas à marcher.
Tu
veux. C'est la faille pour aller, tu prends le
lieu. Non, tu peux. La Payotte, oui. Donc tu peux rentrer, même en contresens, si tu veux, tu peux rentrer sur les ports pour aller vers la poissonnerie là, en partant de la garderie d'enfants là, de ce côté-là.
On essaie d'y passer sur le port. Si on va, si on peut y aller, on passe par le port, sinon on passe par derrière.
On peut toujours.
Attends, je sais ce qu'il faut faire.
Vas-y avec eux. Mireille. Va avec eux.
Ben écoute, je vais essayer.
Bon, Fabio, on s'intéresse.
Merci.
11h15 demain.
Merci beaucoup.
Allez.
Et nous, Hervé, merci. Ciao. Merci.
Bravo, c'est de mieux en mieux.
Ah oui, je sais, mais ça c'est un sujet qui porte, c'est pas comme.
Alors tu les emmènes, tu les débrouilles, moi je vais à pied avec Claude.
Voilà.
C'est pas bon, on vous rejoint au café.
Oui. Alors, vai con questo signore tu.
Grazie.
Ah?
Grazie mille.
De cosa?
Mamma mia. Una sorpresa.
Sabato sono stato applaudito dai vestiti oggi.
È la gloria. Ci vedo tutta la
No, ma ça va, j'ai pas su ma veste. Pas tant de fois.
Oh, on ira là-bas.
Voilà. Et nous on est. Hop là. C'est bon. Lao.
Io dicevo,
wow, che arietta!
Ma cosa c'entra lo Shema?
Quello degli ebrei.
Allora noi andiamo a piedi?
Sì. Madonna, che freddino che uno. O faceva caldo là dentro?
Sì, faceva caldo là dentro.
Lo spazio è almeno di la tua, ma... Vale. Non so se magari possiamo anche buttarlo giù passando da casa. Sì. A tutta l'ora.
C'est compliqué de faire purer des coques, c'est pas possible.
Hein?
Dès qu'il y a des femmes, c'est compliqué.
Non, non, c'est...
Mais quand
tu as...
Guarda a piedi. Sì, sì, certo.
A 3 km e demi. Allez, viens là.
E io ho chiesto per provare se come a chaque fois une petite chose s'est avancée et donc il y a un nouveau problème.
Quando Fabio ha detto quella cosa molto interessante che i greci per 40 anni hanno avuto da
città,
e allora hanno fatto questa cosa, non avevo mai visto questo punto di vista.
No, ma aspettale, tu, allora, tu, se tu guardi un pochettino la storia, no? Ma la storia te la spiegano male, ma se tu guardi la storia, tu segui la curva della popolazione europea, cioè le pestilenze,
certo,
le epidemie, va con il clima.
Certo, certo.
Poi ci sono state delle ere glaciali, delle mini glaciazioni,
certo.
La popolazione d'Europa si è ridotta a un terzo di quello che era.
E il comune
c'è 200.000 ans,
je crois.
100.000
ans. 100.000 ans, là. Le